Ce message vous est proposé gratuitement.
Gratuitement.
Et en intégralité par le ministère Enseigne-moi. Sa diffusion est rendue possible grâce aux généreux dons des internautes comme vous. Nous vous souhaitons une agréable écoute sur enseignemoi.com, le site partenaire des églises locales.
Voilà, je voudrais vraiment vous apporter ce matin cette exhortation que j'intitulerai « Il est temps d'agir ». Il y a des choses qu'il nous faut faire. Et j'aimerais qu'aujourd'hui, plutôt que quelque chose qui ressemble à un cours magistral ou une prédication, c'est qu'on puisse prêcher ensemble, comme si on était des amis rassemblés autour du Seigneur. Peut-être la structure de la salle, maintenant, je suis comme debout devant vous, vous êtes assis à écouter, mais qu'on soit comme en train de partager quelque chose. Moi, j'imagine, des fois, le cinéma nous a rendu certaines images de Jésus. Voilà, on lit dans les évangiles, Jésus s'étant assis, la foule qui se rassemble, voilà, le maître va parler. On ne sait pas exactement comment c'était. C'est selon l'imagination de celui qui fait le film. Mais effectivement, c'est ce côté, Jésus attirait des foules qui voulaient l'entendre. Tiens, voilà, il est là, on y va. Et des fois, il est dit qu'ils étaient allés de très loin pour aller à pied pour l'entendre. Et donc, il y a un moment où il se crée une proximité. Et moi, j'aimerais qu'on puisse régulièrement développer cette idée que, voilà, on est rassemblés là autour du Seigneur. On n'est pas en train de supplier, « Ah, Seigneur, sois présent dans notre culte. » Non, il est là, et il faut simplement que nous en soyons conscients. On le met pas quelque part à côté ou dans un placard ou que sais-je, ou comme un prédicateur l'a dit un jour, des fois c'est comme si il était dans une petite boîte et on ouvre la boîte, il sort, fait son petit numéro, après on le remet dans la boîte jusqu'à la semaine prochaine. Non, c'est pas comme ça du tout. C'est il est là et nous on s'approche de lui. Et donc pourquoi on est là? Ben on est là déjà pour s'encourager. Hébreux 3, 13. On ne s'occupe pas de ce qui était écrit avant, mais le verset commence. « Au contraire, encouragez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui. » Donc, je voudrais souligner les deux aspects, chaque jour et aujourd'hui. Encouragez-vous chaque jour, chaque jour, chaque jour, pas de temps en temps. Chaque jour, un encouragement. Tous les jours, vous avez besoin d'encouragement. Et spécialement aujourd'hui. Parce que, comme on l'a souvent dit, hier c'est passé, hein, c'est pas la peine de rester accroché dans votre passé. Vous allez perdre ce qui vous reste de votre vie en étant toujours à regarder derrière ce qui n'a pas été. Donc, vivez le présent. Si on se projette trop loin dans le futur, ça ne sert à rien non plus. Par exemple, il y a des gens qui s'inquiètent de beaucoup de choses dans le futur, de choses qui n'arriveront peut-être jamais. Et donc, on perd tout ce temps à s'inquiéter. Où on perd tout ce temps à regretter en ne vivant pas dans l'aujourd'hui. Et la Bible dit, voilà, encouragez-vous, faites-le régulièrement, chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui. Alors aujourd'hui, c'est pour nous. Aujourd'hui, maintenant. Allons dans Hébreux 3, si vous ne l'avez pas cherché encore, parce qu'il y a plusieurs choses que nous allons voir ensemble dans ce passage. L'exhortation de Hébreux 3, c'était de bien montrer à ces croyants qui étaient d'origine hébraïque, qui connaissaient donc beaucoup de choses de la loi, de leur montrer la transition, la différence entre ce qu'ils avaient vécu jusqu'à présent et ce que Jésus leur avait apporté. Et comme certains étaient tentés des fois de retourner dans leur religion traditionnelle, et ils disaient « Non, non, vous devez maintenant réaliser ». Quelle est cette chose nouvelle, quelle alliance avec Jésus, ce que vous vivez? Donc, il rappelle certaines choses, il dit, voilà, vous qui avez eu part à l'appel céleste, dans verset 1, portez vos pensées sur l'apôtre et le grand prêtre de la foi que nous professons, Jésus-Christ. L'apôtre, apôtre, ça veut dire envoyé, d'accord? Dès qu'on voit ce mot apôtre, il faut transposer par envoyé. Il a été envoyé. Et c'est le grand prêtre de notre foi. Un prêtre, c'est un intermédiaire entre Dieu et les hommes. Donc, il y a eu des prêtres dans l'ancienne alliance, et maintenant, il dit, et maintenant, le grand prêtre, c'est Jésus. Donc, il est resté fidèle, et on parle de plein de choses par rapport à la fidélité de Moïse, la fidélité de Jésus. Et puis, il y a un appel spécifique par le Saint-Esprit, verset 7. C'est pourquoi, comme le dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, tout le monde dit aujourd'hui? aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur, comme lors de la révolte, le jour de la tentation dans le désert. On se rend compte, en fait, si on n'y travaille pas, il y a un endurcissement naturel qui se développe chez chaque être humain. Des personnes qui, pendant toute leur vie, ont rejeté la grâce de Dieu, on est très triste de voir qu'il y a des personnes âgées qui sont dures, qui sont aigries, qui sont rancunières. Chacun d'entre nous a eu des choses qui n'ont pas été dans sa vie. Mais c'est certainement pas comme ça que quoi que ce soit va s'arranger et qu'on pourra préparer son passage dans l'au-delà. Donc il y a une exhortation de chaque jour, n'endurcissez pas votre cœur. Chaque jour, si vous entendez sa voix, ouvrez-vous à recevoir la voix de Dieu. Et donc, ça va même plus fort au verset 12. Faites attention, il dit faites attention. Qu'aucun de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule qui le détourne de Dieu vivant. Donc, qu'aucun de vous n'ait un cœur mauvais. Certaines choses, les gens ont l'impression que ça vient de Dieu, c'est tombé d'en haut, soit je l'ai ou je ne l'ai pas, hein. Ce n'est pas de ma responsabilité. Mais ici, il nous est dit, faites attention, vous, que vous n'ayez pas un cœur mauvais. Donc, vous pouvez travailler à l'attitude de votre cœur. Quand on parle d'attitude, des fois, il y a des petits slogans. Comme par exemple, il y a des gens qui ont dit « Votre altitude dépend de votre attitude ». Donc on fait des jeux de mots. Altitude, tout le monde comprend que ça veut dire que dans la vie, beaucoup cherchent à s'élever, réussir, être en haut, être au sommet de la gloire. Donc on pense toujours quelque chose qui est en haut, c'est l'image de la réussite. Donc comment on va faire pour arriver tout en haut ? Il y avait le chanteur qui chantait « Je me voyais déjà tout en haut de l'affiche ». Et donc, il y a des gens qui visent des choses élevées. Mais nous aussi, en tant que chrétiens, on vise des choses élevées. On parle et on parle régulièrement, justement, de l'aigle qui s'élève. On l'a chanté, on l'a lu dans la Bible. Donc, on se laisse élever. Et il nous est dit « Jésus nous a amenés avec lui pour être à la droite de Dieu ». Et donc, comment est-ce qu'on va arriver à cette altitude? Eh bien, c'est par notre attitude. Notre attitude. J'ai là un petit truc en anglais que je vais vous partager. Je traduirai pour que tout le monde puisse bien participer. Mais ceux qui aiment bien les chiffres, les lettres et tout ça. Donc, voilà la réflexion. Quelqu'un a dit « Si A, B, C, D, E, F, G, donc les 26 lettres de l'alphabet, correspondent à 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à 26, donc A égale 1, B égale 2, etc. Alors, en anglais, ça donne la chose suivante. Knowledge, la connaissance, si vous rajoutez les points de chaque lettre, K, 11, N, 14, etc., vous arrivez à 96%. Donc, par la connaissance, vous arrivez à 96%. Si vous prenez maintenant le mot anglais « hard work », « travailler dur », en prenant les lettres comme « H, 8, A, 1, etc., vous arrivez à un total de 98%. Mais, ces deux choses sont importantes, mais aucune n'atteint 100%. Par contre, si vous prenez le mot « attitude » et vous ajoutez donc le 1 pour A, le T, 20, etc., vous arrivez à 100%. Donc, la connaissance et le travail dur sont de bonnes choses. Ça vous fait monter, ça vous fait atteindre certains objectifs. Mais l'attitude, vous atteignez 100%. C'est juste pour donner une illustration graphique avec un petit exercice de chiffres et de lettres. Mais retenez ça, l'attitude, c'est tout. Si par exemple, vous vous laissez aller, quelqu'un est béni, vous laissez aller à la jalousie. Attention, il dit « Faites attention, cœur mauvais, jaloux. Ah, il a eu ça, mais c'est moi qui aurais dû avoir. » Vous vous disqualifiez pour être dans le chemin de Dieu. La bénédiction, c'est vous vous réjouissez de ce qu'un autre peut avoir. Vous restez positif. Vous ne dites pas « Ah, je ne méritais pas, c'est moi qui aurais dû avoir. » Toutes ces attitudes nous disqualifient. Par contre, avec Dieu, vous comprenez que ce n'est pas parce que l'autre a eu quelque chose que moi, je suis privé de quelque chose. Ça, c'est le diable qui veut toujours nous faire croire qu'il y a un gâteau. On coupe des morceaux. Plus on est de monde, plus les morceaux sont petits. D'accord ? Mais avec Dieu, ce n'est pas comme ça. Parce que quand il n'y avait que 5 pains et quelques petits poissons, Jésus l'a pris, l'a béni et l'a multiplié. Et donc la méthode de Dieu est différente. Quand dans le monde, alors des gens peuvent dire, oh, c'est facile à dire, etc. Quand dans le monde, on parle de la crise, on a cette mentalité. Les ressources de la planète sont limitées. Il n'y en a pas assez pour tout le monde. On est trop nombreux. Et donc, la crise, ça veut dire que mon commerce, s'il ne marche pas, si l'autre venait à fermer, peut-être ça irait mieux, etc. Mais c'est toujours dans l'idée de c'est limité. Et donc, ça paraît facile à dire, mais en réalité, ça nous demande du courage spirituel de déclarer certaines choses, de déclarer que Dieu peut le faire. Il peut le faire. Quelqu'un peut se poser la question dans le psaume, Dieu peut-il dresser une table dans le désert? Oui, il peut. Là où il n'y a rien, il peut faire quelque chose. Dans le désert, il n'y a pas d'eau. Par définition, il a frappé le rocher, l'eau en est sortie. Il n'y a pas à manger, la manne est tombée, le peuple était nourri. Et dans toutes ces situations de crise, Dieu a toujours montré qu'il savait être présent chez les personnes de la foi. Donc, la connaissance, c'est bien. Travailler dur, c'est bien aussi. Mais l'attitude, rappelez-vous de l'attitude. L'attitude est essentielle. Notre attitude par rapport à Dieu. Vous croyez que ça fait plaisir à Dieu si vous dites, oui, je t'aime, je te fais confiance, mais je crois pas que ça va marcher. Je crois que là, dans ce cadre spécifique là, tu pourras rien faire. Parce que c'est ce qu'on dit finalement. On ne lui dit pas avec ces mots-là. Mais il faudrait le transposer. Quand on dit, c'est pas possible, on devrait le transposer en disant, Dieu, je crois que tu ne peux pas faire quelque chose dans cette situation. Et là, ça nous frapperait, cette phrase. On se dirait, mais non, mais qu'est-ce que je suis en train de raconter, là? Mais on reste dans un abstrait de Dieu, c'est pas possible. Mais non, c'est pas possible, ça veut dire, même toi, tu peux rien faire à ce sujet. Or, c'est pas ce que nous voulons. Nous voulons lui permettre d'agir encore et encore. Donc, aussi longtemps qu'on s'encourage les uns les autres, aussi longtemps qu'on dit aujourd'hui, il y a une possibilité de vivre un miracle avec Dieu. Alors, je disais, se projeter trop dans l'avenir. Il y a un passage dans Jacques 4, au verset 13, je préfère le regarder dans cette version, sur ceux qui font beaucoup de projets. Bien sûr, ceux qui sont dans les affaires, il faut faire des projets, il faut faire des études de marché, il faut faire des investissements, de tout ça. Mais la Bible dit, c'est dans Jacques 4, au verset 13, « À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. » Et la Bible nous dit, « Et vous ne savez pas ce qui arrivera demain. Car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire, encore une fois cette expression, au contraire. » Au contraire, alors qu'est-ce qu'on doit dire au contraire? Si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Donc chercher d'abord la volonté de Dieu et ensuite s'engager dans une voie plutôt que de faire des projets et en dehors de lui. Donc dans un an, je ne sais pas ce qui sera dans un an. On peut faire des projets, mais en même temps, mettons Dieu dans les projets. Alors je sais que nous ne sommes maintenant ni dans une situation de rentrée scolaire, ni le premier de l'an on prend des bonnes résolutions, mais on a dit qu'on est dans aujourd'hui. Vous voyez, c'est ça qui est important aussi. C'est pas bon, ça n'est, je sais pas ce qui se passe, etc. Mais au 1er janvier tout va changer. C'est pas une date magique qui est... Non, c'est aujourd'hui qui est important pour nous. C'est pas le 1er janvier, c'est pas la rentrée des classes, c'est pas donc nous voulons saisir certaines choses aujourd'hui. Alors, premièrement, pareil, on ne va pas faire un bilan en décembre, d'accord? On va regarder un petit bilan régulier, check-up, aujourd'hui. Où en es-tu? Par exemple, avec la vision. Moi, j'ai fabriqué un petit document, là, avec plusieurs éléments qui me parlaient. Et donc, j'avais fabriqué ce petit document que j'aime partager avec vous. Le cycle de la vie, je l'ai appelé. Juste pour que les gens puissent se situer. À un moment donné, c'est la mission. La mission, c'est quoi? Mission, c'est la même chose qu'apôtre. Il est envoyé et on est envoyé en mission. Il y a des gens qu'on appelle des chargés de mission. Il y a des missionnaires. Donc mission, ça veut dire on est envoyé dans un but bien précis. Donc quelqu'un a été envoyé à un moment donné. C'est Jésus, il a été envoyé pour qu'on entende la bonne nouvelle. Maintenant d'autres font entendre la bonne nouvelle. Chacun de vous qui témoignez, des évangélistes, des gens qui sont au travail. Donc ils font ce job d'être envoyés, de dire la bonne nouvelle. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils nous font connaître. Ils nous font connaître Jésus. Ils nous font connaître la bonne nouvelle. Et ils nous montrent quel est le plan de Dieu pour les hommes. Donc, de mission, connaître, ça fait qu'on devient, quand on entend la bonne nouvelle, on devient membre du corps. On a accepté Jésus, on devient membre du corps. De quel corps? Du corps de Christ, l'ensemble de tous les croyants dans le monde entier. Maintenant, ça se concrétise souvent dans un groupe local. Le groupe local est important, mais plus important est la vision du corps. D'abord, je fais partie d'un corps. C'est pourquoi il y a aussi des fois certaines confusions encore entretenues. Quand des gens se font baptiser, on entend des prières du style « ça y est, maintenant il est rentré dans la famille de Dieu ». Non, maintenant il a juste témoigner de son engagement public devant Dieu, c'est tout. Mais c'est pas à ce moment-là que se situe la nouvelle naissance. C'est comme nous avons la joie d'avoir un nouveau-né parmi nous, mais ça fait longtemps que nous avons prié pour un nouveau-né, ça fait longtemps qu'on l'a présenté à Dieu de toutes sortes de façons. Il y a un moment où on devient membre, on fait partie du corps. Et un nouveau-né, quand il fait partie du corps maintenant, nouveau-né en Christ, qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il grandit. Et c'est là le problème. Quand il y a des bébés qui ne veulent pas grandir, c'est un problème. Mais un bébé, normalement, il grandit. Comme le Seigneur Jésus l'a dit, il s'accroissait. Il s'accroissait, il avait la grâce de Dieu et la grâce des hommes. Et donc, quand on grandit, on atteint la maturité. Et c'est dans ce stade de grandir qu'on a des fois ce problème d'attitude. Ceux qui veulent pas lâcher certaines choses. Mais que nous a dit l'apôtre Paul à ce sujet? Grandir, on a lu dans 1 Corinthiens 13, et c'est bien qu'on le lise régulièrement, tout ce chapitre sur l'amour et 1 Corinthiens 13, à un moment donné, l'apôtre Paul dit au verset 11, « Lorsque j'étais un enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. » Il a donc fait disparaître les enfantillages. Les enfantillages, c'est tout ce qui est de l'enfant dans nos attitudes et qui nous empêche de grandir, qui nous empêche de prendre part à certaines responsabilités. Mais parce que quand on prend part à la responsabilité, c'est vrai, il y a du travail à faire maintenant, et c'est quand même un plaisir de pouvoir prendre en main certaines choses, de les faire soi-même. Autrement, quand on n'est pas en situation de responsabilité, on a toujours un boss au-dessus de nous qui fait ceci, fait cela, etc. Et donc, pour des personnes en général, on aime avoir une certaine autonomie, pouvoir prendre certaines initiatives. Je sais qu'il y a des gens qui se complaisent dans le juste « je fais ce qu'on me dit, point final, je réfléchis pas ». Mais nous, on aime être des personnes qui grandissons, qui atteignons une certaine maturité. Et quand on a la maturité, on comprend que jusqu'à présent, il y a beaucoup de choses desquelles nous bénéficions que d'autres faisaient et on n'a jamais pris part. Ainsi, les tout petits enfants se posent pas de questions sur la gestion de la maison, sur la façon dont le repas est constitué ou pas, ou fait, qui fait l'entretien, qui paye les factures, on ne se pose aucune question. Et dans le corps de Christ, c'est pareil. Au début, il y a des gens qui viennent, ils se posent aucune question comment ça fonctionne. Mais quand ils grandissent, qu'ils deviennent membres et qu'ils arrivent à la maturité, à un moment, ils se posent des questions. Alors, des fois, pendant cette croissance, il y a une crise, un peu comme une crise de l'adolescence. On remet en question certaines choses qui sont établies, mais on propose pas forcément de solution. On dit juste, non, je suis pas d'accord, on pourrait faire autrement. Oui, mais comment tu ferais? Comment tu t'y prendrais? C'est là que des fois, il n'y a pas de réponse. Mais quand on arrive alors à cette maturité, on se dit, ah oui, les choses ne se font pas toutes seules. Je vais prendre part. Et donc, c'est mon autre point de dire, en même temps que tu te situes, où es-tu? On te situe sur la map, vous êtes ici. Et donc, on voit, est-ce que je suis jeune chrétien? Est-ce que je connais Christ? Est-ce que je réalise que je fais partie du corps et maintenant que je grandis, est-ce que je manifeste de la maturité? Est-ce que je manifeste de la maturité? Si oui, alors ça me conduit au ministère. Maintenant, je suis en train de servir. Beaucoup voudraient être ministre. Ministre, c'est que des avantages. Hein, beaucoup de gens se demandent ce qu'ils font. Les ministres, en tout cas, on sait ce qu'ils ont. Ils ont des positions, ils ont des indemnités, ils ont des voitures de fonction, des logements, des plein de choses comme ça. Dans notre pays, on a les moyens, donc toutes ces choses existent. Eh bien, dans l'Évangile aussi, dans le corps de Christ, il y a des gens, ils veulent un ministère parce que ça fait bien, etc. Mais une fois qu'on a compris que le ministère, ça veut dire servir, et que Jésus a dit, je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir, du coup, on découvre quelque chose que ceux qui n'ont pas de maturité ne comprennent pas. C'est qu'il y a de la joie dans le service. Il y a de la joie à se servir les uns les autres, de faire plaisir à quelqu'un en le servant. Et cette joie, elle vient de Dieu. Donc la maturité nous conduit à servir. Il n'est pas normal qu'un chrétien n'ait pas de ministère au bout d'un moment. Ministère, c'est-à-dire, maintenant je réalise où j'étais, dans quelle partie du corps de Christ. Je réalise que même si je ne suis pas encore parfaitement mûr, grandi et tout, on apprend tout au long de notre vie, mais je réalise quand même que j'ai un appel à servir. Et cet appel à servir se développe au fur et à mesure. Et alors, je sais quelle est ma place. Je sais quelle est ma place dans le corps. Maintenant, ce ministère, quand il se développe, il participe au final. Donc, on boucle la boucle. Le ministère, c'est de nouveau faire connaître pour qu'il y ait de nouveau la mission des gens qui sont envoyés. Donc, on participe maintenant à quelque chose de plus que seulement moi. Au début, c'est normal, le petit enfant ne s'occupe que de soi. Hein, il ne s'occupe pas d'autre chose que de soi. Recevoir pour grandir, se développer. Au bout d'un moment, dans la croissance, il est normal qu'il puisse prendre conscience du monde qui l'entoure. Et puis, quand il a atteint une certaine maturité, il veut sa propre place dans la vie. Il ne veut pas juste comme ça, ce ne serait pas normal. Un adulte continue d'habiter chez papa et maman et mettre juste les pieds sous la table. Il y a un moment où les choses doivent évoluer. Et donc, on participe à la vie, le cycle de la vie. C'est faire connaître, c'est que d'autres puissent de nouveau. Il y a toujours les parallèles entre... Ça marche dans tous les domaines, que ce soit maintenant dans la famille, dans le couple, dans l'église, dans le job. Partout, on a ce même type d'attitude et de comportement. Donc, que fais-tu? Où est-ce que tu en es? J'aimerais rappeler... cette histoire d'Élie, même si on ne va pas le lire en détail, mais c'est dans 1 roi 18, par là. Donc, Élie était, après sa victoire sur le mont Carmel contre les faux prophètes, maintenant il était fatigué et profondément découragé. Il va se cacher dans une caverne, et là, Dieu le rencontre et l'appelle. Et il dit, que fais-tu là, Élie? Qu'est-ce que tu fais dans la cave, dans ta caverne, dans ton endroit où tu te caches? Et donc, cet appel d'Élie, il dit, ben voilà, j'ai fait plein de choses, mais maintenant je suis fatigué, je suis découragé. Donc, cette tendance pour chacun d'entre nous, c'est que malgré tout ce qu'on a pu faire de bien, ou tous les efforts qu'on a pu produire, à un moment, on vit peut-être un moment difficile ou un échec, et alors c'est la tendance au repli, repli sur soi. C'est là que, de nouveau, la parole de Dieu vient nous interpeller. Et dans Matthieu 25, il nous est question de ces talents que chacun d'entre nous avons reçus. On a reçu 5, 10, 2, 1, peu importe. Et peu importe la nature du talent. Vous n'avez pas besoin de vous comparer aux autres. Mais la Bible dit, chacun a reçu un talent. Et là, la question c'est, qu'est-ce que tu en as fait? La parabole des talents, c'est dans Matthieu 25, 14 et suivant. Donc, chacun vient, au bout d'un moment, il présente à son maître ce qu'il a fait des talents qu'il avait reçus. Un en avait 5, il en a gagné 5 autres, et il les présente à son maître, voilà, j'en ai 10 maintenant. Et donc, chacun dit, ben, c'est bien, entre dans la joie de ton maître, chaque fois, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Il y en a un, il n'a reçu que un talent. Mais c'est son attitude qui posait problème. C'est pas le fait qu'il avait qu'un talent, c'est ce qu'il en a fait. Il l'a caché, caché dans la terre, ça veut dire il l'a laissé en lui-même, il l'a pas développé. En plus, il fait des reproches. « Seigneur, je savais que tu es un homme dur », verset 24. « Tu moissonnes ou tu n'as pas semé, tu amasses ou tu n'as pas vanné. » J'ai eu peur. La pire des choses qu'on puisse faire, c'est agir par la peur, par la crainte. Et il n'en sort jamais rien de bon. La peur, c'est l'inverse de la foi. Alors, qu'est-ce qu'il a fait ? « Je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Donc, au lieu que le talent, il ait servi à quelque chose ou à quelqu'un, il a été caché en lui, il l'a gardé en lui. Donc, l'exhortation, on a dit, encouragez-vous chaque jour, aussi longtemps qu'on dit aujourd'hui, l'exhortation, c'est utilise ton talent. Utilise, rentre dans cette phase de ministère où tu sers à quelqu'un, où tu sers quelqu'un, où tu fais quelque chose autour de toi. On a dit que l'objectif final, c'était la mission, qu'on soit de nouveau dans ce cycle où maintenant on est envoyé vers quelqu'un. Donc pour la mission, que ce soit autour de nous, ou très loin en Afrique, ou je ne sais où, mais on a certains principes qui sont facilement acceptés. Par exemple, nourrir les gens, ça c'est bien, d'accord ? Les éduquer, ça c'est bien aussi. Les soigner, c'est bien. Faire des choses de développement, d'économique, etc. Toutes ces choses sont bonnes. Mais il ne faut pas oublier que lorsque le Seigneur a envoyé ses disciples en mission, il a dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples ». Vous voyez, ce n'est pas une option. Une fois que vous aurez fait les écoles, les dispensaires, les machins, les trucs et tout, « Ah oui, et j'oubliais, faites aussi des disciples ». Ce n'est pas ça. Il faut qu'on remette les choses à leur place. Je suis pour le fait d'aider concrètement les gens. Les gens qui ont faim, il faut leur donner à manger ou leur donner le moyen de pouvoir s'acheter à manger ou cultiver ou développer ou que sais-je encore. Mais il ne faut pas oublier que la première mission, c'était former des disciples. Donc, apprenez aux gens par la parole de Dieu à recevoir la parole de Dieu et se laisser transformer par. On a vu tout à l'heure que la parole de Dieu nous dit de ne pas faire un projet sur, par exemple, un an sans tenir compte de Dieu. Mais faites des projets, ayez des idées, réalisez quelque chose. Les gens qui ont fait quelque chose dans ce monde et dans la vie, d'une manière générale, ce ne sont pas des gens qui l'ont fait par hasard. Tout à coup, hop, il est tombé quelque chose. Et puis on dit, ça c'est une bonne idée. Non, c'est pas comme ça. La plupart du temps, c'est des gens qui ont cherché. Celui qui a inventé l'ampoule électrique, hein, il a dit que des milliers de fois, il a essayé. Et donc, on a dit, mais tu as échoué tant de fois. Il a dit, non, j'ai trouvé tant de manières de ne pas le faire. Et finalement, il y a une façon où ça a marché. Mais il a essayé, il a poursuivi cet objectif. Et maintenant, nous, on trouve normal. On appuie sur le bouton, on a de la lumière, tout va bien. Ne se pose pas plus de questions. Mais à un moment, il y a quelqu'un, il a poursuivi cet objectif. Et pour plein de projets et de réalisations et d'inventions, c'était la même chose. Donc, ayez des projets, ayez des idées, développez des rêves, mettez-les devant Dieu. Faut que ça passe à la moulinette, hein. Des fois même, il y a des rêves qui doivent totalement mourir pour pouvoir renaître. Parce que Dieu est aussi le Dieu de la résurrection. Faut que tout ce qui est humain, des fois, soit éprouvé pour que ensuite nous puissions marcher avec Dieu. C'est comme cette idée que Moïse a eue, je vais être le libérateur du peuple, je vais le faire à ma façon. Et donc, vous savez ce qui est arrivé ? Il a cru qu'en tuant l'Égyptien, les autres allaient comprendre, c'est lui le libérateur. Il a dû s'enfuir. 40 ans de renouvellement de l'intelligence dans le désert en étant simple berger pour après seulement devenir le libérateur. Donc nous, on va pas faire des projets maintenant de ce qui sera dans 40 ans. Ce n'est pas notre sujet. Notre sujet, c'est justement de pouvoir vivre l'aujourd'hui. Et Dieu dit de bonnes choses sur votre avenir. Je sais que vous l'avez entendu souvent, certains d'entre vous, mais on va lire encore Jérémie 29, 11. Il n'est pas épuisé. Il n'est pas usé, il est encore efficace. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Je connais les projets. Il ne dit pas car je connais vos projets que vous avez formés. Il connaît les projets que j'ai formés sur vous. Si vos projets et les projets de Dieu se rencontrent, alors c'est une excellente chose. Mais des fois, nos projets vont contre ses projets. Parce que ses projets sont meilleurs. Alors il faut savoir quels peuvent être ces projets. Ce sont déjà des projets de paix. Si vous avez des projets, mais que c'est très très compliqué à mettre en œuvre et que ça vous vole la paix, des fois ils ne viennent pas de Dieu. Des fois, c'est vrai, ça peut être aussi l'ennemi qui essaye d'empêcher un projet de se réaliser. Mais c'est un indicateur. Des projets de malheur, ça c'est certainement, ça ne vient pas de Dieu. Ça ne produit pas le malheur chez quelqu'un quand on suit le projet de Dieu. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. J'ai lu un article sur la situation de la France au niveau social. Et donc quelqu'un disait, en gros, la crise que nous connaissons en France, c'est avant tout une crise d'espoir en l'avenir. Mais quand on enlève Dieu d'une société, comment voulez-vous qu'on ait encore espoir en l'avenir? Alors nous disons encore haut et fort, Jésus est le seul espoir du monde. Donc nous avons la solution. Nous avons la solution et nous avons des idées. Donner aux gens espoir en l'avenir, ça veut dire leur donner cette relation avec Jésus. Qui veut, ici c'est dans Jérémie, veut nous donner un avenir et de l'espérance. Quand on a un avenir et de l'espérance, on n'est pas désespéré justement. On n'est pas dans le trouble, dans le flou de qu'est-ce qu'on va devenir, etc. Verset 12, vous m'invoquerez et vous partirez. Pourquoi partir? Parce qu'ils étaient dans une situation de déportés. Ils étaient prisonniers dans un autre pays, si vous voulez. Et donc vous m'invoquerez, vous partirez, vous pourrez revenir au lieu de la bénédiction. Vous me prierez et je vous exaucerai. Ça c'est un beau passage. Hein. Vous me prierez et je vous exaucerai. Des fois on dit d'une personne, elle prie beaucoup. Ça veut dire elle dit beaucoup de paroles, mais si on n'a pas l'exaucement. C'est pour ça que c'est important de prier selon Dieu. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. De tout votre cœur. Pas juste, bon... J'ai essayé, Dieu, je t'ai donné une chance. Hein. Fais ça, sinon, il n'y a pas de sinon, il n'y a pas de négociation avec Dieu. Ça ne va pas comme ça. Donc, il connaît des projets. Alors, pour nous aussi, c'est important. Planifiez votre vie spirituelle. Nous avons été exhortés à lire notre Bible. Mais il faut planifier sa vie spirituelle. Il faut se donner des priorités dans la journée de prière, de parole de Dieu, de méditation, d'objectifs qu'on veut avoir. Pour la vie d'église aussi, c'est chacun met des talents à la disposition du corps. Donc là aussi, voyez votre niveau d'engagement. C'est pas parce que vous faites pas la même chose que l'autre que vous n'êtes pas engagé, mais c'est simplement par rapport à ce que vous avez reçu, qu'est-ce que vous apportez, quelle est votre part. Et ensuite, pour équilibrer encore le tout, et ça nous l'avons dit aussi à la Sainte Cène tout à l'heure, pendant que nous prenons la Sainte Cène, nous annonçons aussi le retour du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est aussi ça l'espoir du monde, c'est que le Christ, le Messie, va revenir. Et donc là, il y a quelqu'un qui était, Jésus a dit cette parabole dans Luc 12, 16, « Les terres d'un homme riche avec beaucoup rapporté. » Et c'est toujours un peu troublant de voir l'attitude de cette personne. Parce que, c'est quelqu'un, ça a bien marché pour les affaires, on pourrait dire. Hein. Verset 16, « Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté, et il raisonnait en lui-même, disant, « Que ferais-je ? » Donc il planifiait, « J'ai pas de place pour entrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens, et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. » Et là, ce qui me trouble un peu, c'est d'un côté, il a des biens matériels et de l'autre côté, il dit « Mon âme, tu as des biens en réserve. » Pour moi, les réserves au niveau de l'âme ne se situent pas au niveau des biens. Et ça me semble un peu décalé, justement. Et c'est ce que Jésus essaie de souligner ici. Parce que lorsque Dieu lui dit « insensé », un insensé, c'est celui qui dit qu'il n'y a pas de Dieu. Il vit sa vie comme si Dieu n'existait pas. Cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui sera-ce? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Il y a un moment où il faut comprendre que la vie d'un homme ne dépend pas de ce qu'il possède. Serait-il dans l'abondance? Il faut développer des richesses au niveau de votre âme. Que votre âme soit riche. Que vous soyez riche pour Dieu. Que vous développiez des choses qui ont de la valeur et qui durent dans le temps et dans l'éternité. Donc soyez riches pour Dieu. Amassez-vous beaucoup de trésors dans le ciel. Donc nous sommes aussi pour le fait que Dieu veut bénir quelqu'un, que quelqu'un puisse réussir dans les affaires, mais vous voyez, le problème essentiel, c'est que cette personne, elle focalisait entièrement sur ses biens matériels. Et à cause de ça, elle pensait que voilà, tout irait bien. Et c'est pas comme ça que ça se passe. Concernant aussi un proche retour de Jésus, les choses se mettent en place, nous sommes attentifs. Il y a eu des prophéties, il y a eu des paroles de Jésus dans les évangiles. Je vous rappelle quand même que ça fait à peu près 2000 ans que ces choses ont été dites. Mais quand nous lisons dans Actes des Apôtres, au chapitre 2, verset 17, « Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des songes. » Oui, sur mes serviteurs et sur mes servants dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel, des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu, une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang. Donc on a commenté cet événement astronomique qui a eu lieu il n'y a pas longtemps, qu'il y avait ce fameux phénomène de la lune de sang. Et donc ça doit simplement nous rappeler que oui, il y a un temps qui est fixé, il y a des choses qui vont se passer. Donc, avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux, alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Donc, je vous invite vraiment, soyez riches pour Dieu, invoquez le nom du Seigneur, rappelez-vous que la fin de toute chose est proche, et puis vivez dans l'aujourd'hui. Amen.
Nous espérons que vous avez été bénis par ce message. Chaque année, le ministère Enseigne-moi a un impact considérable dans la vie de dizaines de milliers de personnes. Avec votre aide, nous continuerons à diffuser la parole de Dieu partout dans le monde. Dès aujourd'hui, devenez vous aussi partenaire du ministère Enseigne-moi en vous connectant sur le site www.association-enseignemoi.org. www.association-enseignemoi.org.